Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À n'en pas douter, le revenu de base ou revenu universel sera un des sujets du débat qui opposera en fin de semaine les candidats à la primaire organisée par le Parti Socialiste. Ce dispositif, qui consiste à verser à chaque individu tout au long de sa vie une somme lui permettant de couvrir ses besoins essentiels, est resté longtemps rangé au rayon des utopies. La présidentielle est en train de lui apporter la consécration. À gauche, Benoît Hamon, Yannick Jadot et dans une moindre mesure Manuel Valls en ont fait un axe de leur programme. L'instauration d'un revenu de base permettrait de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de prendre acte d'une société où le travail se raréfie. Le fait est suffisamment rare pour être relevé. Mesure populaire dans une partie de la gauche, elle l'est aussi dans une partie de la droite, chez les libéraux, pour qui l'individu est le mieux placé pour décider de ce qui lui est profitable. Attribuer à chacun une somme forfaitaire à vie aurait des vertus émancipatrices à l'égard du travail, des employeurs et bien sûr de l'État. Mais le revenu de base n'a pas que des amis. Ses contempteurs lui reprochent de vouloir démonétiser la valeur travail, de remettre en cause la protection sociale et de se tromper de cible en abandonnant la lutte contre les inégalités. Alors dans le cadre de cette journée que consacre justement France Culture à ces dernières, il nous a semblé incontournable de revenir sur ce débat. Je dis revenir car ça n'est pas la première émission que nous consacrons à ce sujet. Le revenu de base est-il une mesure de justice sociale ? Eh bien, nous allons poser la question à trois invités. Nicole Tequet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du MFRB, le Mouvement Français pour un Revenu de Base. Vous y êtes la coordinatrice des relations publiques, le MFRB, qui vient de publier deux ouvrages collectifs sur ce sujet aux éditions Yves Michel, ouvrage coordonné par Jean-Éric Yafil. Pour discuter avec vous, Marc de Basquiat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, président de l'ER, l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Vous êtes membre fondateur du MFRB, mais vous avez fini par vous en éloigner. Et vous venez de publier avec Gaspard Koenig un rapport pour le think tank libéral Génération Libre, rapport intitulé « Libère, un revenu de liberté pour tous ». Libère, c'est le nom que vous avez donné à ce revenu. C'est d'ailleurs le deuxième volet de ce rapport que vous venez de publier. Et puis notre troisième invité, c'est Daniel Zamora. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes post-doctorant en sociologie à l'Université de Cambridge et à l'Université Libre de Bruxelles et vient d'être publié sous votre co-direction « Contre l'allocation universelle ». L'allocation universelle, c'est un des noms qui est donné à ce revenu de base. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Luxe. Alors avant de vous demander la raison, Daniel Zamora, pour laquelle vous êtes contre cette allocation universelle, il faut bien sûr entendre ceux qui sont pour. Sur le site du mouvement français pour un revenu de base, j'ai pu lire cette définition, Nicole Tequet, c'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie. Est-ce que ça signifie que, à partir du moment où on est, on a droit à une somme que l'on va conserver tout au long de sa vie et qui sera toujours la même, en tout cas qui sera toujours la même que celle que perçoivent d'autres personnes, peut-être plus âgées
Alors oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un revenu de base qui soit accordé de la naissance à la mort. Après, il y a d'autres propositions qui proposent aussi des revenus de base enfants ou d'autres versions pour les retraités. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce pilier qui repose sur ces trois notions qui sont l'universalité, l'individualité et l'inconditionnalité. L'objectif derrière ce revenu de base défendu par le MFRB, c'est vraiment de constituer une avancée sociale, d'en faire un pilier de la protection sociale et non pas de venir la déconstruire comme certaines proposition l'indique.
Imaginons que ce revenu existe aujourd'hui en 2017, ça pourrait représenter à peu près quelle somme mensuelle pour chaque individu ?
Alors, bon, c'est, la question du montant est un peu faussée parce que tout dépend du financement et finalement, c'est peut-être pas ce qui est le plus important. En termes de montant, on trouve des propositions, en tout cas parmi celles qu'on défend au MFRB, entre 500 et 1000 euros. Mais comme je disais, l'important c'est vraiment le mode de financement, ce qu'on vient remplacer en termes d'allocation sociale, en termes d'imposition, etc. Dépendra aussi de si nous on défendra le revenu de base ou pas, parce qu'on se réfère réellement à notre charte pour pouvoir défendre un revenu de base et qui soit vraiment un outil d'avancée sociale et non pas de régression.
Alors je précise hein, d'ailleurs que ce soir la discussion ne va pas porter sur la nature du financement et sur le montant de cette allocation, même si voilà, la question que je vous posais c'était aussi pour avoir une petite idée de ce que ça peut représenter, mais on est plus sur la philosophie de cette mesure. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous Marc de Basquiat, dans la définition qui est celle qui est défendue par Nicole Tequet?
Je m'y retrouve d'autant mieux que c'est moi qui l'ai écrite. Voilà, donc je suis un des fondateurs du MFRB, donc c'était en début 2013. Nous étions un petit groupe de personnes d'origine très variée, et nous avons conçu et développé cette association pour rassembler tous les militants en France de cette idée. Et donc voilà, donc c'était un pari, c'était pas un pari facile d'ailleurs, hein, d'arriver à nous mettre ensemble tous pour réfléchir et travailler ensemble pour faire avancer une idée. Et cette idée, nous l'avons effectivement écrite en nous inspirant de ce qui avait été écrit également au niveau international, au niveau du Basic Income Earth Network, hein, qui existe depuis 30 ans maintenant. Voilà. Donc nous avons travaillé beaucoup ensemble. Et par contre, la différence qu'il y a entre le mouvement MFRB, hein, que je soutiens toujours et auquel je participe volontiers à différents moments, et ce que nous faisons à l'AIR, c'est que l'AIR, c'est un groupe d'experts. C'était fondé par un académicien, un professeur d'économie, par différents experts de différents profils. Et notre travail, c'est justement d'approfondir la réflexion sur la faisabilité et comment ça fonctionne vraiment, cette chose-là.
Et comment ça fonctionne, c'est justement, alors peut-être ce qui vous distingue un petit peu, c'est que vous proposez, vous, un crédit d'impôt qui permette justement de distribuer ce revenu d'existence.
Alors, en fait, ce n'est pas que ça nous distingue. C'est que, quelque part, le travail que nous faisons, c'est un travail d'approfondissement. Et quand j'étais, avant de faire le MFRB, j'ai fait une thèse en doctorat en économie sur le sujet. Donc j'ai vraiment travaillé à ce moment-là sur l'approfondissement du sujet. Mais nous poursuivons ce travail parce qu'effectivement, ça soulève énormément de questions. De dire qu'on va donner de l'argent à tout le monde, c'est une idée idiote à la base. On va donner de l'argent à tout le monde, c'est une idée qui est très surprenante. Et il faut vraiment travailler sur beaucoup de dimensions pour faire avancer ça. Et donc c'est pour ça que, par rapport au MFRB, c'est assez complémentaire. Il y a toute l'éducation, je dirais, faire avancer l'idée de manière très large dans tout le pays, et ça progresse très bien, et bravo à tous. Hein. Et ensuite, il y a l'approfondissement, et quand nous travaillons avec le Sénat qui met en place l'année dernière une mission d'information pour aller dans le détail, nous avons travaillé beaucoup avec eux pour éclairer ça, pour analyser les détails, et ainsi de suite.
Si ce n'est peut-être qu'aujourd'hui, avec Gaspard Koenig, vous vous réclamez d'une tradition libérale qui est peut-être quand même moins présente dans ce qu'on peut lire des ouvrages qui sont publiés par le mouvement français pour un revenu de base. Mais on va y revenir, bien entendu, dans le courant de cette discussion. Daniel Zamora, Marc de Basquiat nous disait, a priori, c'est une idée un peu idiote. Est-ce que c'est parce que c'est une idée un peu idiote à la base que vous êtes contre ?
Non, pas spécialement. Je veux dire, l'axe qu'on a pris dans l'ouvrage, c'était essentiellement d'essayer d'étudier cette idée au travers du concept de justice sociale qu'elle porte. Et donc, le point de départ qui a guidé un peu la réflexion, c'est de dire, contrairement à ce qu'on peut entendre de temps en temps, spécialement à gauche, que d'une certaine façon, l'allocation universelle pourrait être l'aboutissement, pourrait être la concrétisation de la sécurité sociale, on essaye de montrer qu'au fond, sur beaucoup de points, elle y est opposée. Elle est à beaucoup d'égards, elle s'est construite contre la philosophie de la sécurité sociale et du projet d'après-guerre tel qu'on l'a en France après 45.
C'est-à-dire vous dites même, voilà, en gros, c'est un phénomène qui accompagne la décomposition de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Oui, je pense. Un des points qui est peut-être le point central, c'est le rapport au marché. C'est-à-dire que la sécurité sociale, dès le départ, est conçue comme un outil visant à limiter le marché, à essayer de le réguler, mais surtout d'offrir des droits sociaux et d'offrir toute une série de la santé, l'éducation, de choses qui vont être conçues en dehors de la sphère marchande, alors que le revenu de base vise à donner un plancher. Et la question du plancher, évidemment, c'est qu'au-dessus du plancher, le marché peut faire son peu jouer comme il entend. Et donc là, il y a une question qui oppose ces deux philosophies, à mon sens.
Alors Nicole Tequet, est-ce que le revenu de base que vous défendez se situe en dehors de la sphère marchande, sur les côtés de la sphère marchande, ou vraiment pile au milieu? C'est vrai qu'a priori, donner une somme forfaitaire à chaque individu et lui laisser le libre choix d'en faire ce qu'il veut, a priori, ça n'est pas quelque chose qui semble aller, en tout cas, contre l'idée de marché.
Alors, je pense qu'il faut, qu'on puisse distinguer l'allocation unique et le revenu de base. Pour nous, une allocation unique, c'est vraiment l'idée de venir remplacer tout le système de protection sociale. Et là, peu importe le montant, on peut dire 500 euros comme 1000 euros, et en laissant ensuite les citoyens se débrouiller, que ce soit pour les accès à la santé, éducation, etc. Le revenu de base, c'est vraiment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de venir renforcer la protection sociale. Donc, on ne touche pas à l'assurantielle.
C'est-à-dire, aucune prestation sociale ne disparaît. C'est le revenu de base s'ajoute à toutes les prestations sociales qui existent, ou bien il y en a quand même qui sont regroupées sous ce revenu de base?
Alors là, tout dépend des propositions de financement, et je pense que Marc de Basquiat pourra en parler, mais,
oui, mais c'est
ce qu'on retrouve en tout cas...
Le revenu que vous défendez, vous, c'est quoi?
Alors, nous, on défend plusieurs propositions, si tant est qu'elles sont conformes à la charte du MFRB. Là où on retrouve certains points communs, c'est notamment dans l'idée de remplacer le RSA à minima. On peut aussi y intégrer les allocations familiales, et puis en s'autofinançant par l'impôt, ce qui permettrait aussi d'avoir une mesure beaucoup plus redistributive et plus progressive aussi. Donc en fait, tout dépend du montant et du financement pour pouvoir dire si c'est une allocation unique ou un revenu de base. En tout cas, nous, ce qu'on défend, c'est vraiment pas cette idée d'une allocation unique, mais plutôt vraiment d'un revenu de base qui soit émancipateur et un outil de justice sociale.
Vous, Marc de Basquiat, est-ce que vous dirigez davantage vers l'allocation unique? Et en termes de prestations sociales, quelles sont celles que vous maintenez? Quelles sont celles que vous faites disparaître ou que vous faites absorber, en tout cas, par le revenu de base?
Alors, je crains que vous soyez très déçus de ma réponse. Nous sommes absolument 100% d'accord avec ce que vient de dire Nicole. Forcément, nous travaillons totalement là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire... Enfin, là, je vais peut-être utiliser des mots un peu techniques. Hein, faire une différence entre les prestations contributives et prestations non contributives. C'est la clé de tout. Le contributif, c'est quand on cotise pour sa retraite, pour son chômage, pour différentes choses comme ça. Ça, c'est contributif. Et selon le niveau de ses cotisations, si on a beaucoup cotisé, on recevra beaucoup plus tard. Si on a peu cotisé, on recevra peu. Si on n'a pas cotisé du tout, on recevra rien. Les retraites, les gens qui n'ont pas cotisé en retraite, ils ne reçoivent rien. Ça, c'est le domaine du contributif. Et par rapport à ce que disait Daniel Zamora tout à l'heure, effectivement, la protection sociale qui a été créée depuis 1945, enfin, ou qui a progressé depuis 1945, c'est beaucoup le contributif. Qui était le cœur. Et ça, c'est très bien. Et il faut continuer à le développer, il faut continuer à l'améliorer. Ça, nous n'avons aucun commentaire par rapport à ça. On n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est vraiment le non-contributif qui est l'objet de notre discussion. C'est le non-contributif. Et dans le non-contributif, il y a deux aspects. Il y a d'une part les prestations non-contributives, le fait qu'on va donner le RSA aux personnes qui n'auront pas cotisé avant, qu'on va donner les allocations familiales aux personnes qui n'auront pas cotisé avant, et ce genre de choses. On n'a pas cotisé avant. Et on va payer des impôts, et là, on ne vous demande pas à quoi ça sert. On vous prend des impôts. Ça, c'est du non-contributif également. Et donc, ce que nous proposons, finalement, c'est une réforme de tout ce qui est non-contributif, aussi bien en prélèvement qu'en prestation.
Daniel Zamora, est-ce que ça vous rassure un petit peu?
Non, pas du tout. Il y a quand même un contexte aujourd'hui qui est important, à savoir que, prenons l'exemple de la Finlande, donc les pays dans lesquels aujourd'hui elle est considérée, c'est-à-dire des pays dans lesquels on mène une expérimentation pour éventuellement implémenter ce système. L'exemple de la Finlande est intéressant parce que le gouvernement reconnaît ouvertement qu'il va falloir essayer d'implémenter cette allocation universelle, mais d'un autre côté, il faut flexibiliser le marché du travail, éventuellement repousser, voire supprimer l'âge de départ à la retraite. Donc cette idée aussi de dérégulation du marché du travail, parce que la question de la sécurité sociale ou même de la philosophie d'après-guerre ne se limite pas à la sécurité sociale. C'est aussi les services publics, c'est aussi le droit du travail. Tous ces éléments ont été constitués pour, évidemment, d'une certaine façon, protéger les gens du laisser-faire du 19e siècle. Et donc le contexte aujourd'hui porte plutôt à croire que c'est cette option là qui est mise en avant. Et deuxième élément, qui est quand même très important, c'est que à partir du moment où on prône une version de l'allocation universelle qui serait plus généreuse, une version plutôt de gauche, alors tout de suite, alors on va pas entrer dans le débat, mais alors tout de suite la question du montant se pose et des sommes qu'il faut lever pour pouvoir la financer, et il devient difficile d'avoir un plan qui permet de faire les deux, d'une certaine façon, de dire on va garder les services publics, on va garder toutes les prestations, et d'un autre côté, on va financer une allocation universelle, admettons, à 500 euros, dont le budget, c'est plus de 300 milliards d'euros. Donc là, il y a quand même un problème, je pense, sur un choix de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, comment est-ce qu'on l'utilise, et est-ce qu'il vise à renforcer le marché, les mécanismes, à déréguler la sphère du travail, ou au contraire à renforcer la philosophie de la sécurité sociale telle qu'on l'a conçue.
Mais alors ce choix, justement, ça va être un choix qui devient individualisé. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux individus pour faire des bons choix, en tout cas, c'est-à-dire des choix qui profitent au collectif et à l'individu?
Alors effectivement, là, au cœur du débat, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait cet argent. L'option qui a été prise dans l'après-45, c'est-à-dire l'argent qu'on socialise, on va socialiser une partie de notre argent, on va socialiser une partie des richesses pour offrir des services collectifs. La santé ou l'éducation en est un très très bon exemple. La philosophie de l'allocation universelle, bon, c'est Milton Friedman qui vise à dire, au fond, l'individu, c'est toujours mieux que l'État. Et si, au fond, vous voulez aller en vacances plutôt que d'aller chez le dentiste, c'est votre choix. Pourquoi est-ce qu'on devrait imposer aux individus des dépenses collectives qu'ils n'ont pas nécessairement envie de financer? Et donc là y a, au cœur du débat, il y a quand même ce problème sur... à mon sens, sur le fait que l'intelligence collective, la notion de démocratie économique, c'est-à-dire qu'on doit décider ensemble ce qu'on fait de cet argent, est quand même centrale.
Marc de Basca, cette philosophie de Milton Friedman, vous l'assumez assez bien, en tout cas dans le rapport Liber que vous avez signé avec Gaspard Koenig, puisque vous écrivez notamment « Nous assumons une vision libérale positive de la nature humaine, mise en situation de responsabilité ». L'être humain recherche ce que Tocqueville appelait son intérêt, bien entendu, et prend des décisions rationnelles.
Voilà, donc alors, c'est Tocqueville ou c'est Friedman?
Il y a les deux. Friedman vient après.
Moi, je connais Tocqueville pour
l'internet. Friedman est cité aussi dans votre rapport.
Puis Foucault, puis plein d'autres. Oui. Voilà. Bon. Donc effectivement, on peut chercher des sources diverses par rapport à cette vision-là. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que je porte vraiment personnellement très fortement, c'est le fait, c'est la conviction qu'un être humain, quand il a les moyens financiers de faire des choix rationnels par rapport à son existence, il fait des choix rationnels. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer que l'État va choisir à la place des gens qu'est-ce qui est bon pour eux. Il faut arrêter ça.
Mais est-ce que la somme des choix rationnels pour sa propre existence font de bons choix pour le collectif?
Mais là, on est sur quoi? On parle de quoi? On parle de donner à chacun 500 euros par mois. Ça fait 16 ou 17 euros par jour. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a rien comme revenu va inventer de bizarre qu'on lui donne 17 euros pour vivre tous les jours? Quel est ce mythe de quelqu'un qui va faire des trucs bizarres avec 17 euros par jour? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On est sur quelque chose qui n'a vraiment pas de sens. Donc, il faut vraiment se dire maintenant, les gens qui aujourd'hui ont le RSA, quand on les observe, ça fait quand même un paquet d'années depuis le RMI, depuis 88, on sait ce qu'ils font avec. Ben, ils font des choses rationnelles. Ils essayent de bouffer. Ils essayent d'élever leurs enfants, ils essayent de faire des choses rationnelles. Donc arrêtons tous ces délires du fait qu'il faut aider les gens à choisir ce qui est bon pour eux. Ça, c'est fini. Ça.
Donc ce revenu d'existence ou ce revenu de base, vous ne le concevez comme un revenu complémentaire et pas un revenu qui peut me pousser à faire un autre choix qui pourrait être rationnel, celui de me dire j'ai suffisamment d'argent pour ne pas avoir besoin de travailler, Nicole Tequet.
Alors oui, c'est l'idée vraiment d'avoir un revenu qui soit cumulable avec d'autres revenus et à partir de là, bon, en fonction du montant aussi, mais à partir de là, être libre de choisir réellement ce qu'on veut faire de sa vie. Et c'est là tout l'enjeu du travail aussi.
De choisir ce qu'on veut faire de sa vie, donc pourquoi pas de ne pas travailler.
C'est-à-dire, de travailler moins, de mieux répartir le temps de travail. Enfin, je veux dire, on est dans une société à l'heure actuelle où on a un grand nombre de personnes qui sont dans une situation de chômage, qui ne peuvent pas trouver d'emploi. Et à l'opposé, on a des travailleurs précaires, de plus en plus nombreux, et d'autres personnes qui travaillent dans des situations de plus en plus difficiles. On le voit notamment dans toutes ces situations de burn-out, de surmenage, toutes ces dérives du travail, notamment ce que l'anthropologue David Graeber appelle les bullshit jobs, tous ces emplois qui n'ont finalement plus de sens ni pour la personne qui l'exerce, ni pour la société plus globalement. Donc
avec le revenu de base, plus personne ne va vouloir tenir et faire ces travaux que personne n'aime. Comment est-ce que vous réglez cette contradiction-là, Nicole Tequet?
Pour ce qui est des travaux pénibles, il faudra peut-être effectivement revoir ces emplois, peut-être revaloriser les salaires, peut-être chercher à les automatiser ou alors faire nous-mêmes aussi. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut faire nous-mêmes. Donc il y a toute une panoplie de possibilités qui peut s'offrir à nous. Ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est vraiment que chacun soit libre de faire les choix. On est actuellement dans une société où on est contraint par le travail, on est presque dans une subordination salariée pour la plupart des personnes qui sont obligées de travailler, sinon elles se retrouvent dans une situation d'exclusion sociale. Et c'est vraiment ça que le revenu de base vient soulever en termes de problématiques.
Daniel Zamora.
Alors, si vous voulez, moi, je suis pas. La question n'est pas de savoir que vont faire les personnes qui vont recevoir ces 500 euros. Il est évident qu'il faut non seulement augmenter les minima sociaux, il faut individualiser les minima sociaux aussi, et il faut les rendre accessibles à l'ensemble de la population.
Merci de le dire.
Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la population, au sens général du terme, c'est-à-dire peu importe le revenu que vous avez, va recevoir 500 euros.
Ça veut dire que
tout le monde pourra recevoir, pour la France, c'est le RSA ou des allocations de chômage, qui par ailleurs S'il y a de plus en plus de gens au RSA aujourd'hui, c'est parce qu'on a détricoté l'assurance chômage. Donc ça, c'est un élément important. Il faut les revaloriser, il faut que les gens puissent avoir un revenu décent. Alors si on pense que les gens vont pouvoir choisir de ne pas travailler ou faire des choix libres en recevant 500 euros par mois, bon, là, c'est une illusion. Il est évident qu'avec 500 euros par mois, on ne peut pas se permettre de décider de ne pas travailler.
La seule... bon, imaginons qu'on le pousse un peu plus haut.
Mais alors là, se pose la question, admettons qu'on le pose à 1000 euros, même si déjà 1000 euros, c'est pas évident, mais si on le pose à 1000 euros, là, on est presque au-delà du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale ensemble. Donc là, ça devient vraiment un budget gigantesque. Donc au moment, la question ici, elle avait été posée de manière assez claire par Lionel Stoléru, qui était un haut fonctionnaire français, qui est d'ailleurs décédé il y a quelques semaines de cela, il n'y a pas longtemps. Donc lui, qui était un des initiateurs de l'idée d'un impôt négatif en France sous le gouvernement de Giscard, et puis il a été un défenseur de l'allocation universelle, et il posait la question en ces termes: est-ce qu'il faut chercher à pallier aux causes de la pauvreté ou aux effets de la pauvreté? À ses yeux, l'impôt négatif, et par la suite l'allocation universelle, son intérêt, c'est de s'attaquer aux effets de la pauvreté et ne pas s'interroger sur les causes. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Ça voulait dire, au lieu d'essayer de réguler le marché du travail, d'offrir des crèches gratuites pour que les femmes puissent se libérer du travail domestique, de construire des logements sociaux, toutes ces politiques d'après-guerre sont inefficaces, elles nuisent au dynamisme de l'économie. Attaquons-nous juste aux effets, donnons aux gens ce revenu. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si par ailleurs toutes ces dépenses ne sont plus possibles, alors vous aurez 500 euros par mois, mais votre crèche va vous coûter plus cher, peut-être votre soins de santé vont vous coûter plus cher, peut-être les transports publics vont vous coûter plus cher, parce que là, il y a évidemment un choix. Donc la question, c'est: est-ce qu'on s'attaque aux causes, à savoir la dérégulation de l'économie, le néolibéralisme, ça c'est évidemment ce que moi je pense, ou est-ce qu'on s'attaque uniquement aux effets et on laisse alors marcher à plein le régime économique qui produit toutes ces exclusions?
Bah, la question telle que vous la posez, je la pose à Marc de Basquiat.
Oui, en fait, merci beaucoup pour ce résumé qui est très bon. Hein. Effectivement, quand Lionel Stoléru, qui travaillait avec nous à l'air, on était très proches, Lionel Stoléru, il y avait deux messages importants, effectivement, c'était de dire, effectivement, plutôt que de se fatiguer à essayer d'inventer la société parfaite, ainsi de suite, non, il y a une urgence, c'est que aujourd'hui en France, vous avez 6 millions de personnes qui n'ont pas de boulot, plus de 6 millions. Vous avez 8 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est une réalité, c'est des millions. C'est pas marginal, c'est des millions. Et donc on peut réfléchir pendant longtemps à inventer la société parfaite, qui serait une société peut-être marxiste ou je ne sais quoi, peu importe. Non, c'est pas l'approche. L'approche, c'est de dire, écoutez, on veut vraiment que tout le monde soit debout. Et pour que tout le monde soit debout, on assure ce socle, quoi qu'il arrive. Et le deuxième grand message de Lionel Stoléru, c'est que cette réforme-là, c'est une réforme fiscale. Il faut arrêter de bricoler les différents minima sociaux, les ajuster, les modifier, ainsi de suite. Il faut arrêter ça. Il faut réfléchir sur quelque chose d'extrêmement global, extrêmement globalisant, sur lequel tout le monde est positionné. Et donc, c'est une nouvelle forme d'impôt. Un impôt qui fait que certains qui ont des revenus vont payer, parce qu'en fait, ils vont payer plus que ce qu'ils ne reçoivent. Et d'autres, ceux qui n'ont pas le revenu, ils vont recevoir cette forme d'impôt, entre guillemets, négatif, mais ils ne paieront pas parce qu'ils n'ont rien à déclarer.
Mais si je suis bien, Marc de Basquiat, vous nous dites donc que c'est une mesure, avant tout une mesure d'urgence, et pas forcément une mesure de transformation de la société, c'est ça?
C'est une mesure de transformation de la société. Mais on a bien vu que ça fait quand même des décennies qu'on bricole, et on se rend compte que bricoler les minima sociaux à l'infini, c'est une impasse. Et les sénateurs qui ont fait ce rapport très intéressant, sur le revenu de base, en prennent tout à fait acte. Il faut passer à autre chose, et le schéma cible, c'est clairement une forme d'imposition où le fisc va assurer des transferts tout à fait systématiques et transparents et clairs entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens.
Vouloir instaurer, Nicole Tecquet, un revenu universel en période de crise où il y a effectivement une forte précarité qu'on peut constater, de fortes inégalités, est-ce que ce n'est pas justement le meilleur moyen de le faire démarrer sur de mauvaises bases, c'est-à-dire aussi de faire peut-être accepter, à travers la mise en place d'un revenu universel, l'existence des inégalités, de ne pas combattre finalement ce qui pourrait être le plus important, savoir les inégalités plutôt que la pauvreté?
Ouais, je pense au contraire que le revenu de base permet aussi de mettre le doigt sur ces problématiques sociales et économiques, que ce soit la pauvreté qui ne cesse d'augmenter de jour en jour, ça fait des années qu'elle augmente. Le revenu de base vient apporter un outil économique qui s'inscrit dans un projet de société plus vague, plus vaste en fonction de ses porteurs de propositions, mais c'est effectivement un outil qui peut apporter une réponse aux problématiques de la pauvreté et aussi, en fonction des propositions, de la question des inégalités.
Les inégalités, si c'est un revenu universel, il est attribué à tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un de très riche aura aussi droit à son revenu universel.
Alors, il vous le allez me dire, voilà,
500 euros sur plusieurs millions, ça ne représente pas grand-chose. Mais enfin, en tout cas, je ne vois pas très bien en quoi ça peut contribuer à réduire les inégalités. Autant sur la pauvreté, je vois, sur les inégalités, ça me semble plus.
Alors, en fonction du montant, déjà, ça peut réduire les inégalités et aussi en fonction du financement. Les personnes les plus riches, comme vous disiez, le reversent par l'impôt, en totalité, voire plus. Donc, ça se compense, entre guillemets. Toujours est-il que le jour où ces personnes qui sont riches, si jamais elles perdent tout leur argent, elles auront toujours ce seuil ce filet de sécurité qui leur permettra toujours de faire face aux aléas de la vie. Et c'est vraiment cette idée d'avoir un revenu garanti pour tous, qui permette à chacun de pouvoir aussi se projeter dans l'avenir et de faire des choix de manière plus sereine.
Daniel Zamora.
Oui, par ailleurs, j'ai lu avec intérêt le rapport sur le Liber, et là, il est écrit de manière relativement claire que, et d'ailleurs le tableau le montre, que les effets redistributifs sont relativement modérés.
C'est vrai.
Donc, il y a un choix quand même qui est fait sur la question, il faut d'abord lutter contre la pauvreté, et pas tellement s'attaquer aux inégalités. D'ailleurs, c'était le choix que faisait Signolet sur les rues en disant, s'attaquer aux inégalités, au fond, c'est toucher au dynamisme de l'économie, ce qu'il faut, c'est uniquement, encore une fois, instaurer le plancher, et au-dessus du plancher, alors là, il faut absolument maximiser le marché, etc. etc.
Bon, on peut au moins dire que ça contribue peut-être à favoriser l'égalité des chances, alors qu'il y a un autre thème. C'est pas directement lutter contre les inégalités, mais c'est donner à chacun peut-être pas toutes les mêmes chances, mais en tout cas, davantage de chances égales au départ dans la vie.
Absolument. D'ailleurs, je pense que l'idée de l'allocation universelle est intimement liée à celle de l'égalité des chances. C'est qu'elle elle s'est formulée aussi au travers de cette ambition qui naît à partir des années 70-80, qui devient un enjeu essentiel des politiques publiques.
Et ça vous pose problème ou ça
alors,
vous
évidemment, une société où il y a une égalité des chances, c'est une bien meilleure société que la société dans laquelle il n'y a pas d'égalité des chances. Mais l'égalité des chances ne signifie pas plus d'égalité. À savoir, si on est tous sur la même ligne de départ, il y en a quand même toujours qu'un seul qui gagne et d'autres qui perdent. Donc la question, ce n'est pas tellement la ligne de départ. C'est pas. Alors évidemment, c'est
ça
pas.
Dépend, ça veut dire quoi? C'est quelles inégalités on accepte finalement?
La question de l'égalité des chances porte sur la distribution des inégalités. Comment elles sont distribuées dans la société? Alors évidemment, on peut avec l'allocation universelle, on aura une plus grande égalité des chances, mais ça ne pose pas la question des écarts absolus, des écarts en tant que tels entre les individus. Évidemment, si on a un revenu plus élevé, les taux d'imposition seront tels que ça va avoir un effet là-dessus. Mais encore une fois que cet argent est là, qui est une masse d'argent considérable, nécessairement, on ne pourra pas l'utiliser pour autre chose. Et qui sont toutes les autres prestations sociales qui sont extrêmement importantes, comme les services publics, les transports, etc. etc.
Nicole Tequet.
Oui, alors juste pour rebondir sur la question du coût, parce qu'on y revient constamment, pour citer juste un exemple, la sécurité sociale, quand elle a été mise en place à l'après-guerre, le budget était tel que c'était presque 100% du PIB. Donc j'ai envie de dire, pour la première fois depuis des années, on a vraiment un projet de société qui nous permet vraiment de défendre des valeurs dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent finalement. Au MFRB, on a tous les mois, on a des gens qui arrivent, de nouveaux adhérents qui disent qu'ils n'ont jamais milité de toute leur vie, dans aucun parti politique, dans aucune association, mais que pour la première fois, ils trouvent un projet de société dans lequel ils se reconnaissent véritablement. Donc je pense que sur cette question du coût, c'est vraiment pas la question la plus importante. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant d'organiser une émission sur l'aspect plus philosophique, parce que je pense que c'est véritablement là tout l'enjeu du revenu de base.
Est-ce que dans ce projet de société, Nicole Tequet, je vais poser la même question à Marc de Basquiat, le travail occupe une place différente de celle qu'il occupe aujourd'hui? Est-ce que c'est une place moins centrale parce que justement ça peut permettre à certains d'avoir le choix de travailler, de ne pas travailler, de travailler moins?
Tout à fait. Je pense que le revenu de base est vraiment intimement lié à la question du travail, dans le sens où on ne veut pas la fin du travail, comme on nous l'a dit si souvent. On veut la fin du travail subi, pour favoriser un travail choisi, que chacun ait les moyens, les clés, les outils de pouvoir choisir véritablement, éventuellement de pouvoir équilibrer le rapport de force entre l'employeur et l'employé. Et ça, c'est quelque chose qui se fera pas mécaniquement, mais ça peut être le rôle des syndicats aussi d'organiser ça, cette mutation aussi du travail, parce qu'il va y avoir une mutation du travail, notamment quand on parle des questions d'automatisation, de robotisation, tous ces phénomènes qui font que le travail va peut-être pas disparaître, mais en tout cas changer. Donc c'est vraiment l'idée du revenu de base, c'est aussi de pouvoir accompagner chaque citoyen dans cette mutation du travail et leur laisser véritablement la liberté de choix.
Est-ce que ça n'est pas écorner la valeur, là, cette fameuse valeur travail, Marc de Basquiat, que de vouloir promouvoir ce revenu de base en disant, bah voilà, finalement, travailler, ça n'est pas si essentiel que ça. En tout cas, ça a peut-être une place trop importante aujourd'hui dans la société.
Alors, la valeur travail, c'est un terme qui est un peu ambigu, mais je pense qu'il faut un peu le retrouver un petit peu son sens. En un mot, je vais citer un philosophe qui est un peu connu, qui s'appelait Karol Wojtyla, puis mieux connu sous le nom de Jean-Paul II, et qui a écrit un texte assez intéressant, qui fait partie de la doctrine sociale de l'Église, qui s'appelle donc, l'encyclique Laborem Exercens. C'est en 1981. Et dans ce texte, il explique qu'il y a deux rôles dans le travail. Il y a le travail qu'il appelle objectif, c'est-à-dire toute la technique qu'on déploie pour faire des produits, pour rendre des services, voilà, de manière efficace. Ça, c'est la technique, c'est le travail objectif. Et ensuite, il dit, également important, si ce n'est plus important, le travail subjectif, c'est-à-dire le sujet qui travaille, la personne qui travaille. Et il dit dans ce texte que les questions sociales qu'on débat depuis très longtemps dans nos pays, beaucoup ont un lien avec ça. La compréhension de la valeur, justement, de l'homme qui travaille. Et donc, si vous voulez, quand on a un procès qui est un très mauvais procès sur le fait que le revenu universel va dégrader le travail, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. En réalité, on va redonner avec ce socle les moyens aux personnes d'être debout. Là, je suis toujours sur mes 500 euros. Hein. Les personnes sont debout. Et avec ça, elles peuvent faire des choix. Elles peuvent dire, OK, j'ai 500 euros, mon logement est payé par ailleurs. Il faut les aides au logement. Si on n'a pas d'aide au logement, ça ne marche pas. Il faut les aides au logement. 500 euros pour vivre tous les mois. Et avec ça, la personne, c'est pas fantastique, mais elle est debout. Et elle peut faire des choix raisonnables. Si elle travaille à plein temps, elle dit finalement, ce travail à plein temps ne me satisfait pas pour un tas de bonnes raisons, je vais peut-être reprendre une formation, je vais changer, voilà. Ça donne une flexibilité, un moyen de faire des choix beaucoup plus raisonnables.
Oui, mais prenons un exemple. Tiens, je vais me prendre pour exemple, une fois n'est pas coutume, je suis intermittent du spectacle, je vais renégocier mon contrat à la fin de l'année, et on me dit, t'as le revenu de base. Donc, c'est bon, on ne va pas t'accorder d'augmentation. En quoi, là, ça me sert de ce revenu de base pour...
Excellent exemple. C'est que là, dans ce cas-là, imaginez cette scène-là. Elle a voulu dire, allez, moi, vu les compétences que j'ai, je vais aller vendre immédiatement mes compétences sur l'autre radio.
Europe 1, ils vont me dire la même chose. RTL, pareil, non?
Non, à un moment, il faut bien qu'ils aient des journalistes. S'ils font le coup à tous les journalistes, ils n'auront plus de journalistes. Donc, si vous voulez, en fait, quelque part... l'effet est ambigu. C'est-à-dire, d'une part, l'employeur peut dire, tiens, finalement, il a déjà ça, donc du coup, je vais être un peu rare avec lui. Mais s'il est rare avec lui, le salarié va dire, tiens, vous êtes gentil, t'es rare avec moi, je vais aller voir ailleurs. Parce que là, je suis un peu plus solide pour négocier. Si j'ai des enfants, machin, chacun a son revenu de base, on a un socle qui n'est pas fantastique, mais on peut assumer quelques secousses.
Pour vous, Daniel Zamora, avec le revenu de base, à qui on donne davantage de pouvoir, à l'employeur ou à l'employé?
Écoutez, ceux qui le défendent sont assez clairs là-dessus. Donc, que ce soit le gouvernement finlandais, que ce soit toute une série de patrons de la Silicon Valley, qui sont très favorables à cette option. Et l'idée est relativement claire, c'est au fond, on va pouvoir d'un côté leur donner 500 euros par mois, et puis comme ça, ils pourront accepter tous les jobs. Ils pourront faire Uber, ils pourront faire Airbnb, Là, le gouvernement finlandais parle d'une dérégulation du marché du travail, donc comme ça, les gens pourront devront accepter des jobs beaucoup plus précaires. Alors, moi, je veux bien vous donner, si vous voulez, une perspective qui va donner un réel pouvoir de négociation aux salariés. Eh bien, il suffit d'augmenter les minima sociaux au seuil de pauvreté. Là, on ne parle même pas de 500, on parle de 1000 euros. Et ça coûterait un peu plus de 100 milliards.
C'est-à-dire juste petite parenthèse d'ailleurs, avec le revenu de base, le salaire minimum, il existe toujours, le SMIC existe
bien
toujours.
Bien sûr.
Marc de Basquiat aussi.
Par rapport à ça, c'est une question qu'il faut regarder un peu plus attentivement. Quand vous avez déjà 500 euros qui arrivent tous les mois, si on vous met un SMIC à 1000, qui fait 1150 euros en net, ça vous fait une somme qui va faire 1300. Donc c'est un gain assez fort. En fait, le gain en question, il faut voir s'il est pertinent de le donner aux salariés ou s'il ne faut pas essayer de l'utiliser pour redynamiser un petit peu plus le marché du travail. Les salariés ont tout intérêt à avoir un marché du travail dynamique. Ils peuvent changer plus facilement.
Vous voulez dire flexible?
Oui, absolument. La flexibilité n'est pas un gros mot. Les gens que je connais, si vous voulez, ils ont envie de bouger. Oui. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement les patrons.
Bon, je vous sens en tout cas moins spontané dans votre réponse par rapport au salaire minimum, Marc de Basquiat, que Nicole Tequet.
C'est un sujet compliqué.
Daniel Zamora, je vous laisse poursuivre.
Non, mais voilà, la revendication qui, à mon sens, serait beaucoup plus progressiste, qui est de relever les minima sociaux au seuil de pauvreté, de la généraliser, ça donnerait, pas 500, ça donnerait pas 300, ça donnerait 1000 euros. Et là, je peux vous assurer qu'il y a un pouvoir de négociation beaucoup plus grand et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, encore une fois, je pense que le projet derrière, il est ouvertement défendu par beaucoup de gens, vise précisément à déréguler le marché du travail.
Si je peux répondre à ça.
Et la question des effets sur le salaire, ça, c'est quand même. Bon, j'ai lu dans une série de brochures que non, il n'y aura pas. Ça ne sera que à faveur de l'employé, mais ça, c'est très contestable. À beaucoup d'égards, si on a déjà par ailleurs 500 euros, on risque effectivement de vous dire, ah, mais alors vous avez déjà 500 euros, on peut vous donner un peu moins.
Alors, si vous donnez 1000 euros à toutes les personnes qui sont en situation difficile, c'est-à-dire que si elles devaient prendre un boulot au SMIC, 1150 euros, leur gain serait nul. Parce qu'il faut se déplacer, il y a des frais, voilà, le gain est nul.
Il vaut mieux leur donner 500.
Il vaut mieux que les gens soient actifs. Il vaut mieux que les gens. Et je reprends.
Mais parce que les gens sont rationnels, ils vont prendre la meilleure décision pour eux.
Ils vont prendre la meilleure décision, bien sûr. Mais quand on a 1000 euros, et si on est dehors à 1000 euros, ça fait 2000 euros. S'il y en a un des deux qui reprend un travail au SMIC, si vous voulez, bon, le gain est quand même pas fantastique.
Non, mais le point était simplement de souligner que une option qui est beaucoup plus généreuse coûte beaucoup moins cher. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre la protection sociale en danger, mettre l'ensemble de l'édifice social français de l'après-guerre en danger pour une option dont on ne connaît pas exactement les effets et dont les justifications sont pour le peu contestables.
Si je peux continuer ma réponse, si vous voulez, ok. Quand vous donnez 1000 euros, vous introduisez un effet très fort sur le marché du travail. Je comprends que vous n'avez pas envie que les gens travaillent.
Donc vous êtes contre l'allocation universelle à 1000 euros.
Attendez, voilà. Donc oui, je suis absolument contre ça.
Je ne crois pas qu'il soit contre le fait que les gens travaillent. C'est au contraire plutôt l'idée qu'il faut aller vers le plein emploi. Enfin, en tout cas, c'est voilà. Plutôt en tout cas ce qui est développé dans le livre que vous avez dirigé, Daniel Zamora.
Voilà. Donc moi, je suis pour le plein emploi, si vous voulez. Donc le plein emploi choisi. Où les gens ne soient pas désincités brutalement à aller trouver un boulot.
Mais comment on peut choisir de travailler ou pas avec 300 ou 500 euros? Ce n'est pas possible, on est obligé de travailler avec 500 euros.
Bon, allez, on est presque au terme de cette émission. C'est un sujet, on le voit à chaque fois, qui est assez passionnant. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué en matière d'universalité de ce revenu de base. Est-ce qu'il y a des conditions pour vous, Nicole Téquet, de nationalité ou de résidence en France pour avoir droit à ce revenu de base? Bien, est-ce que ça n'est que pour les Français ou que conditions de résidence en France depuis, je ne sais pas, il y a X années?
Ah bah, simplement, bon, le débat n'a pas été tranché au sein du MFRB, mais simplement, je pense qu'à partir du moment où vous contribuez en payant vos impôts en France, il n'y a pas de raison pour que vous ne receviez pas ce revenu de base. Après, je voulais rebondir sur la question du travail. Je pense qu'il faut quand même pouvoir distinguer emploi et travail. On n'a pas parlé du fait que d'autres activités qui ne sont pas dans le marché du travail sont tout aussi utiles à la société, que ce soit de s'impliquer dans une association en politique, etc. Donc je pense qu'il faut aussi sortir de cette idée du travail simplement comme emploi de salarié.
Et d'ailleurs, en participant à cette émission, on peut dire que vous êtes aussi utile à tous les trois à la société, que vous créez de la richesse intellectuelle. Marc de Basquiat, sur cette question de la conditionnalité ou de l'inconditionnalité, selon qu'on soit français ou pas français, parce que c'est quand même un sujet important quand on imagine le revenu de base.
C'est une question éminemment politique et qui ne peut pas être tranchée en dehors d'un débat politique. Donc là, typiquement, ce sont les députés qui vont devoir travailler là-dessus. Aujourd'hui, on sait que pour obtenir le RSA, pour demander le RSA, il faut les conditions de résidence légale dans le pays depuis 5 ans. Voilà. On ne peut pas demander le RSA si on n'a pas depuis un certain temps. Bon, voilà. Donc, toutes ces conditions-là, et puis selon les outils sociaux...
Vous seriez favorable à quoi ?
À une continuité. À une continuité des systèmes, des règles actuelles, avec potentiellement des évolutions décidées par les députés. Moi, ce n'est pas mon rôle, si vous voulez. Moi, mon rôle, c'est de concevoir un dispositif qui fonctionne, et c'est ce que nous faisons, nous travaillons beaucoup. Ensuite, les conditions politiques d'accès, ainsi de suite, ça peut être la continuité du système actuel, ça peut évoluer, c'est une décision qui appartient vraiment aux politiques.
Daniel Zamora, ce sera la conclusion?
Oui, bah écoutez, voilà, je pense que le choix est assez, pour moi, est assez clair. D'un côté, on a un système qui est là, je pense que c'est dans le système de la sécurité sociale qu'on doit trouver les germes de la société future, de ce qu'on a envie, parce qu'elle porte un idéal qui, à mon sens, a été émancipateur pour des générations, et je trouve très risqué de remettre en cause, de mettre en péril l'ensemble de cet édifice au nom de toute une série de variables qui sont très discutables.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. On va encore entendre parler pendant les prochaines semaines, c'est sûr, de ce sujet passionnant. maintenant qu'est le revenu de base. Merci Nicole Téquet, Marc de Basquia et Daniel Zamora. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Philippine Lebray, mission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Clément Daté. Demain, faut-il confier le droit de vote aux algorithmes? Ce sera notre question à partir de 18h20. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Mais d'ores et déjà, un petit regard sur leur sommaire. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Hervé Gardette.
Bonsoir Hervé. Ah, que les temps viennent où les cœurs s'éprennent. C'est Rimbaud en exergue du Rayon Vert de Romère. Romère dans le texte et au théâtre. On en parle ce soir avec le metteur en scène Thomas Quillardet.
Et nous partons dans le lointain à l'heure bleue avec Marie Modiano pour son nouveau roman Lointain chez Gallimard.
Et on vous rejoint dans un instant, Mathilde et Martin, juste après le rappel des titres.